Nous sommes le lundi 5 février 2024. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Ravi de vous retrouver. Jacques Aristide en direct de Washington pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Les titres que nous allons développer ce matin, de première heure au Sénégal après le report de la présidentielle. Des attaques ethniques font 19 morts dans une région disputée entre les deux Soudans. Mort du président namibien Hage Geingob, militant anti-apartheid. L'accord sur l'immigration et l'Ukraine, rejeté par le président républicain de la Chambre des représentants des États-Unis. Pour démarrer, les affiches des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations sont connues depuis le week-end. Pour le journal de la CAN, je passe le relais à Yacouba Ouedraogo, notre envoyé spécial à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Bonjour à tous. Ces demi-finales vont se jouer mercredi 7 février. Deux grosses affiches, le pays hôte, la Côte d'Ivoire, fait face à la RDC au stade Alassane Ouattara des Bempe, et l'Afrique du Sud va défier le Nigeria au stade de la paix de Bouaké. En effet, lors des derniers quarts de finale disputés samedi, les éléphants sont venus à bout des aigles du Mali, 2-1 dans un match renversant. Cette rencontre a fait des heureux et des malheureux au sein des supporters des deux pays à Ouagadougou au Burkina Faso. Joie pour les fans des éléphants, tristesse dans le nid des aigles. Kader Traoré.
Le duel ouest-africain entre le Mali et la Côte d'Ivoire, comptant pour les quarts de finale de la CAN 2023, a tenu toutes ses attentes, aussi bien à Bouaké, là où s'est déroulé le match, à Ouagadougou, la capitale burkinabé, où des milliers de personnes se sont retrouvées à la place de la commune de Bogodougou pour suivre cette rencontre sur écran géant. Au terme de 120 minutes de jeu, la joie était du côté des éléphants de la Côte d'Ivoire car ils venaient d'arracher le ticket pour les demi-finales. Leurs fans étaient aux anges. Mustapha Wandaogo, vêtu du maillot orange des éléphants, méritait pas sa joie.
J'étais confiant, mais à partir du moment où l'arbitre a donné un carton rouge à un de nos joueurs, ça m'a beaucoup découragé. Mais à la deuxième mi-temps, j'ai vu que l'entraîneur a fait un très très bon choix à la deuxième mi-temps. Et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de remporter le match.
Pour Abdoul Fattah Bangré, c'est toute une philosophie que la Côte d'Ivoire a démontrée. C'est une leçon de patience qu'ils ont déroulée devant les aigles du Mali.
Il faut dire que nous avons pris le match avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes. Un but encaissé et la pression malienne était énorme. Mais à la fin, nous avons gagné. Comme on le dit, les chevaux laissent les hommes courir.
Dans le camp malien, on cherche tous les arguments pour justifier la défaite. Si ce n'est pas un mauvais coaching de Eric Sekou Chelle, c'est forcément la faute à l'arbitre. C'est en tout cas la conviction de André Yabré.
Moi, j'ai pas de condamnation de l'arbitre parce qu'au premier mi-temps, il y avait trois pénalités que l'arbitre n'a pas sifflé. Ça, c'est au premier mi-temps. Donc, mais la prolongation, je n'ai pas de condamnation de l'arbitre. Parce que l'arbitre a eu les fautes que l'on, pour le Mali, que l'arbitre n'a pas sifflé. Et pour donner le petit coup sur la Côte d'Ivoire, l'arbitre a sifflé.
Abdoul Razak Korbego, vêtu de sa tunique des aigles du Mali, pointe du doigt le management du technicien malien.
Le Mali avait de l'avantage au match déjà en supériorité numérique et déjà mené au score. C'était au coach, pour moi en tout cas, je ne suis pas un spécialiste en tant que tel, mais pour moi c'était le rôle du coach de bien manager le match et puis tout allait être bon quoi. Je ferme la porte et je jette la clé. C'est cette technique-là qu'il devrait appliquer et puis paf, c'est tout quoi.
En attendant, l'aventure se poursuit pour les éléphants de la Côte d'Ivoire. Retour dans le nid pour les aigles du Mali. Kader Traoré, Ouagadougou pour VOA Afrique.
Ces matchs des quarts de finale ont été renversants, je le disais, pour certaines équipes. Que retenir de ces oppositions des quarts? Analyse avec Ahmed Bakayoko, journaliste à Al Bayan, notre radio-télévision partenaire à Abidjan.
Eh bien, nous avons assisté à des quarts de finale de très grande envergure avec des équipes, franchement, qui ont produit du jeu et du spectacle de très grande qualité. On ne s'est pas ennuyé du tout devant ces quarts de finale-là. Mais d'abord, sur le papier, nous étions inquiets à l'effet qu'après les huitièmes de finale, beaucoup de mastodontes étaient déjà tombés lors de la bataille. Et donc, on assisterait peut-être à des quarts de finale ennuyeuses avec des équipes pas très prestigieuses sur le papier. Alors, ce qu'on a vu sur le terrain, c'était autre chose par rapport à ce qui était de l'opinion du commun des mortels. Ces équipes-là ont montré du très beau jeu.
En demi-finale mercredi, je le disais, la Côte d'Ivoire fera face à la République démocratique du Congo et le Nigeria jouera contre l'Afrique du Sud. De nouveau, Ahmed Bakayoko, journaliste à Al Bayan, notre radio-télévision partenaire ici à Abidjan.
Ça ne sera pas facile pour le Nigeria parce que les Sud-Africains sont capables de réitérer, de répéter les courses 90 minutes. Et ils ont un magicien dans le milieu en la personne de Percy Tau et surtout une équipe très bien structurée, que ce soit en défense, en milieu comme en attaque, avec des lignes toujours bien placées, difficile de les bousculer. Il va falloir faire attention pour le Nigeria au prochain tour. On aura également un Côte d'Ivoire-Congo qui s'annonce très alléchant sur le papier comme sur le terrain. Deux équipes qui ont à cœur d'aller chercher la coupe. Je pense que ça se jouera sur 90 minutes, voire 120 minutes encore une fois. Peut-être trois prolongations pour les Ivoiriens. Mais en tout cas, l'équipe du Congo sera difficile à jouer. Il va falloir sortir les tripes pour l'équipe de Côte d'Ivoire afin de venir à bout de cette équipe-là.
Merci Ahmed Bakayoko. C'est ici que nous refermons cette fenêtre consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Yacouba Ouidraogo, Abidjan, pour VOA Afrique.
C'était donc le journal de la CAN. Le monde aujourd'hui se poursuit, je vous le disais en titre. Au Sénégal, la journée de dimanche était particulièrement tendue. Une manifestation contre le report de la présidentielle a été violemment réprimée. Plusieurs leaders de l'opposition ont été interpellés avant d'être relâchés. Notre correspondant, Wahani Johnson Sambou, fait le point de Dakar.
Les candidats de l'opposition s'étaient donné rendez-vous pour lancer leur campagne électorale. Une façon pour eux de s'opposer au report de la présidentielle annoncée samedi par le président Macky Sall, le député du parti dissous PASTEF Guy Marius Sagna.
C'est au peuple de sortir et de se libérer et dire que nous ne sommes pas dans un royaume, nous sommes dans une république. Nous voulons une élection présidentielle à date échue, c'est-à-dire le 25 février 2024, pour que nous puissions dire...
La manifestation a viré à la confrontation avec des forces de l'ordre. Des grenades lacrymogènes contre jets de pierre ont fait un grand chaos à Dakar. Les échauffourées se sont soldées par plusieurs arrestations, dont celle de l'ancienne première ministre Aminata Touré et Anta Babacar Gom, candidate à la présidentielle reportée, brutalisée et avant son interpellation.
Rien ne nous arrêtera. Ça, c'est notre droit le plus basique. C'est un droit citoyen. On a rendez-vous avec le peuple sénégalais.
Des scènes de violence ont également été notées dans d'autres localités du pays. La chaîne de télé privée Walfajri s'est dans la foulée vue retirer sa licence pour incitation à la violence pour avoir diffusé en direct ces manifestations. La tension est encore loin de baisser car c'est aujourd'hui lundi que les députés devraient se réunir pour examiner une proposition de loi pour le report de 6 mois de la présidentielle. Wahani Johnson Sambou, Dakar, pour VOA Afrique.
19 personnes, dont un travailleur humanitaire, ont été tuées dans des attaques à caractère ethnique dans la région d'Abyei, zone frontalière contestée entre le Soudan et le Soudan du Sud. Davantage avec Nanit Talani.
Les attaques contre les civils ont abouti à des pertes en vies humaines, à l'embrasement de marchés, au pillage de biens et au détournement de bétail. Parmi les victimes se trouvent 3 femmes et 2 enfants, a déclaré dimanche l'autorité administrative d'Abyei. Elle précise que ces attaques ont été menées par des jeunes tuiks et une milice armée. Ce cycle d'attaques coordonnées contrevient à l'ordre présidentiel qui appelle à un règlement pacifique du conflit communautaire entre les Dinka, Gok et Tuik de l'État de Warap, ajoute-t-elle. Les affrontements sont réguliers à Abyei, territoire dont le statut n'a pas été réglé depuis l'indépendance du Soudan du Sud en 2011 et a été placé sous la protection de l'ONU. Le conflit entre les tribus Tuik et Ngok, toutes deux issues de l'ethnie Dinka, la plus nombreuse du pays, a débuté en 2022 au sujet de revendications foncières dans une zone située à la frontière du territoire d'Abyei et de l'État du Warap. Le week-end précédent, des affrontements similaires ont fait 54 morts, dont 2 casques bleus et 64 blessés.
Le chef de l'État namibien, Hage Geingob, figure de l'indépendance et ardent opposant au régime sud-africain d'apartheid, est mort hier à l'âge de 82 ans à l'hôpital où il était soigné pour un cancer. Son vice-président va finir son mandat. Les détails avec Eric Manirakiza.
Hage Geingob, élu président en 2014, est décédé à Windhoek, la capitale namibienne, où il était hospitalisé pour un cancer, a annoncé la présidence. Ce fervent opposant à l'ancien régime d'apartheid en Afrique du Sud soutenait aussi les accusations de génocide de Pretoria contre Israël devant la Cour internationale de justice. Son vice-président N'Golo Mbumba a prêté serment en tant que président par intérim pour terminer son mandat jusqu'au 21 mars 2025, lorsque le vainqueur à l'élection présidentielle de novembre prendra ses fonctions, indique un communiqué du gouvernement. Le chef de l'opposition, McHenry Venani, regrette un leadership inébranlable dans des temps de turbulence. Plusieurs présidents africains lui ont rendu hommage. Le Sud-Africain Cyril Ramaphosa le décrit comme un vétéran de la libération de la Namibie, du colonialisme et de l'apartheid. Le Kenyan William Ruto salue la mémoire d'un homme qui croyait en une Afrique unifiée et défendait la voix et la visibilité du continent sur la scène mondiale. Pour le Zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, le leadership et la résilience de Gingob resteront dans les mémoires. La Tanzanienne Samia Suluhu Hassan a rendu hommage à un vénérable panafricaniste. Le Somalien Hassan Sheikh Mohamud évoque une voix respectée sur le continent africain. Le Burundais Evariste Ndayishimiye regrette la grande perte d'un leader visionnaire. Le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, salue l'investissement de Gingob visant à améliorer les soins de santé pour les Namibiens. En Russie, Vladimir Poutine évoque un homme formidable dont il gardera à jamais un souvenir lumineux. Le président serbe Aleksandar Vučić salue un opposant inébranlable au colonialisme qui a inspiré les idéaux de liberté des peuples africains.
Également dans l'actualité, de violents combats entre les rebelles du groupe M23 et les forces congolaises provoquent de nouveaux déplacements de populations paniquées dans la région orientale de la République démocratique du Congo, indiquent des sources concordantes dans le nord et le sud Kivu. D'après ces sources, les rebelles se sont emparés vendredi soir de Chacha, localité située sur la route nationale 2 reliant Goma et Bukavu, élongeant la rive ouest du lac Kivu, frontalier du Rwanda. Depuis lors, la ville de Minova reçoit des vagues de déplacés fuyant l'avancée des rebelles, a déclaré Delphin Birimbi, un représentant de la société civile.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, la Californie a été touchée hier par une tempête hivernale potentiellement dangereuse dans certaines parties de l'État avec des vents de force ouragan provoquant des inondations et des coulées de boue. Les précisions avec Michel Joseph.
Des vagues entre 7 et 9 mètres de haut sont attendues dans plusieurs régions bordant l'océan Pacifique, en Californie et dans l'Oregon. Au nord de Los Angeles, le comté de Ventura a été touché dès jeudi et déplore plusieurs blessés. Les vidéos montrent une vague géante déferlée au-dessus d'une digue dans la ville de Ventura, renversée des piétons, tandis que d'autres habitants courent pour se mettre à l'abri. Des avertissements et des ordres d'évacuation sont en vigueur pour les comtés de Los Angeles, Ventura et Monterey et Santa Barbara, où les écoles sont fermées ce lundi. La tempête appelée Pineapple Express a frappé le nord de la Californie samedi. Hier, le Service météorologique national a émis un rare avertissement de vent de force ouragan avec des rafales de vent allant jusqu'à 148 km/h de la péninsule de Monterey au nord du comté de San Luis Obispo. La tempête devrait se déplacer le long de la côte et frapper le comté d'Orange et San Diego ce lundi.
Mike Johnson, le président républicain de la Chambre des représentants américaine, a rejeté le projet de loi dévoilé hier par le Sénat sur de nouvelles aides à l'Ukraine, de même qu'à Israël, et sur le durcissement de la politique migratoire des États-Unis, un texte que le président Joe Biden a appelé à adopter rapidement. Le projet est très loin de mettre fin à la catastrophe à la frontière créée par le président Biden, affirme Mike Johnson, ajoutant que le texte sera mort à son arrivée s'il devait passer à la Chambre. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken arrive au Moyen-Orient ce lundi pour encourager une trêve entre Israël et le Hamas palestinien dans la bande de Gaza où les combats et bombardements se poursuivent sans relâche.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Un grand merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, Jacques Aristide, toujours au micro. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. Revenons d'emblée sur le report au Sénégal du scrutin présidentiel qui était prévu pour le 25 février. L'ajournement, annoncé samedi par le chef de l'État Macky Sall, est intervenu moins de 24 heures avant le début de la campagne électorale. La décision a provoqué un tollé et fait craindre un accès de fièvre. De premiers troubles ont d'ailleurs eu lieu à Dakar hier. Le renvoi a également entraîné l'inquiétude à l'étranger. Les réactions avec Wahani Johnson Nassambou, notre correspondant dans la capitale sénégalaise.
Le président Macky Sall confirme la rumeur de ces derniers jours après un conflit ouvert entre le Conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale sur fond de soupçons de corruption de juges et une polémique sur la double nationalité d'une candidate.
Ces conditions troubles pourraient gravement nuire à la crédibilité du scrutin en installant les germes d'un contentieux pré- et post-électoral. Alors qu'il porte encore les stigmates des violences de mars 2021 et de juin 2023, notre pays ne peut se permettre une nouvelle crise.
Dès l'annonce du report, les candidats de l'opposition sont montés au créneau pour dénoncer la mesure. Moussa Tine de la coalition Tahaou Sénégal du candidat Khalifa Sall crie au scandale.
Ce qui vient de se passer au Sénégal est une forfaiture, c'est un crime à la démocratie sénégalaise. C'est un crime à l'état de droit. Et depuis 2012, le décret présidentiel est devenu une arme du crime politique. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'a aucune forme de base légale.
L'opposant Kari Wad, fils de l'ancien président, a été lui aussi disqualifié. Ses partisans à l'Assemblée nationale ont réclamé et obtenu la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur le Conseil constitutionnel qui a choisi les candidats. Franck Dadidiata, responsable national des jeunes du Parti démocratique sénégalais.
Nous magnifions cette décision de reporter ces élections parce que c'est une décision qui rend la justice. Parce qu'on ne pouvait pas organiser ces élections sans le frère Abdou Karim Maïssa Wadi, qui est la seule alternative fiable pour faire émerger ce pays.
Le pays vit dans l'incertitude après ce report. Aucune date n'a été avancée par le président sénégalais qui a répété qu'il ne sera pas candidat. L'opposition, elle, prévient qu'elle ne reconnaîtra plus Macky Sall comme chef de l'État au-delà du 2 avril, date de la passation du pouvoir prévue par la Constitution. Wahani Johnson Sambou, Dakar, pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
Au Tchad, la mise en place des institutions chargées d'organiser, de superviser les élections et gérer les contentieux électoraux fait polémique. Pour la classe politique et une partie de la société civile, c'est le plan dynastique qui est en train d'être établi. N'Djamena, le reportage de notre correspondant André Kodmajingar.
La composition des langes pose réellement un problème, va enterrer complètement la démocratie au Tchad.
Yassine Abdraman Sakin, président national du parti réformiste. Selon lui, la composition de cet organe viole la loi organique.
La loi organique, dans son article 9, stipule que les partis politiques ne peuvent pas être membres des langes, alors que les militants du MP sont désignés membres de la même ange. Les membres des langes sont choisis et nommé par le président de transition. Peut-il être impartial, indépendant, un être?
Le président du parti Sans Frontières, Yahya Diallo, estime lui aussi que la nomination des membres de l'Agence nationale de gestion des élections et ceux du Conseil constitutionnel, un organe de gestion des contentieux électoraux, jette les bases des fraudes massives pour des élections à venir.
Parmi les personnalités qui viennent d'être désignées pour faire partie du Conseil constitutionnel, il y figure des personnages de moralité douteuse. Concernant l'Agence nationale de gestion des élections, la nomination de M. Ahmed Patchere, de par son statut de magistrat de la Cour de justice communautaire de la CEMAC, viole les droits communautaires de la CEMAC et ne doit pas assumer cette charge. Par conséquent, nous réclamons sa révocation pure et simple.
La société civile estime pour sa part que la mise en place de ces institutions qui doivent gérer les élections pour le retour à l'ordre constitutionnel au Tchad ne sont ni plus ni moins un plan dynastique.
Le président qui est candidat, qui désigne les 8 membres, et le président de l'Assemblée qui désigne les 7 autres, qui sont tous du même parti. Pourquoi organiser des élections même?
Frank Nakingar Diranga est président du conseil d'administration de l'Observatoire des droits et libertés au Tchad. Pour lui, l'avenir du pays est incertain, mais c'est dit optimiste.
On espère qu'un miracle va se produire avec le président de transition et son premier ministre actuel. Leur duo, s'ils ont un plan B pour nous sortir de cette situation. Mais s'ils suivent la classe politique dans leur manière de faire avec les business, les combines, on nous conduit tout droit au mur. Si on respectait l'esprit du dialogue, les représentants qui doivent venir dans Ange doivent sortir des corporations, élus au sein des corporations avant que le décret n'entérine leur nomination. Mais là, c'est des cooptations. On emballe qui on veut, comme on veut. Les critères souhaités au dialogue, là, ont été balayés complètement.
Pour Béral Baïkoubou, conseiller national, les textes mettant en place ces deux institutions ne sont pas de nature à garantir les élections libres et transparentes.
Dans cet ange-là, il n'y aura que les mêmes artisans de fausses lois d'hier, les mêmes faiseurs de faux rois, les mêmes adeptes de faux droits. Lorsque vous avez été désigné par un individu, comment faire pour vous affranchir psychologiquement de sa tutelle-là? Comment est-ce possible?
De façon anonyme, certains caciques de l'ancien parti au pouvoir trouvent ces critiques partiellement fondées, mais refusent de faire des commentaires. André Koduma Djingar pour VOA Afrique, N'Djamena.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Cameroun, la coalition de la société civile du processus de Kimberley plaide pour que le diamant exploité en Afrique soit désormais facteur de développement. Les membres de la plateforme réunis à Yaoundé ont appelé à l'amélioration de cet accord international conclu en l'an 2000 dans le but de réduire l'existence des diamants de conflit. De la capitale camerounaise, le reportage de notre correspondant Emmanuel Jlentap.
Les diamants d'Afrique ont souvent été qualifiés de diamants de sang pour avoir alimenté et financé les guerres livrées par des rebelles. Ce cliché concerne la République centrafricaine. Paul Cressant Beninga, directeur du Centre centrafricain de recherche et d'analyse géopolitique.
Une partie de la RCA est placée zone verte, c'est-à-dire on peut exploiter les diamants dans ces zones-là, et une autre partie est placée zone rouge, ce qui revient à dire qu'on ne peut pas exploiter les diamants dans cette zone-là. Le plus grand perdant, ça reste l'État centrafricain. Mais il faut également interroger la politique d'attribution des permis miniers et dans une grande mesure de gestion de cette affaire-là.
La coalition de la société civile du processus de Kimberley appelle à une révolution de la notion de diamant de sang préjudiciable aux États africains. Jaf Bamenjo, coordonnateur de la coalition des organisations de la société civile du processus de Kimberley.
More, we think that the Kimberley process has become not really taking care of these communities, and things have changed because a couple of years ago we were talking about conflict diamonds because armed groups or non-state armed groups were using it to finance their wars. However, with time, there are now new actors and new forms of violence. If I take, for instance, state security forces too. Private security, and even mercenaries. They are now also the actors. But the Kimberley process has remained as it was from the conception. And therefore, that is the role of civil society to raise these issues, to see if reforms can be brought in.
L'une des réformes souhaitées vise à porter plus d'attention sur l'apport du diamant au développement. Michel Youboué, du groupe de recherche et de plaidoyer sur les industries extractives en Côte d'Ivoire.
Les communautés au cœur du diamant, le diamant pour le développement. C'est ça en fait la nouvelle définition que nous voulons. Mais aussi une chaîne d'approvisionnement qui respecte aussi les droits des communautés, les droits des États.
11 pays, dont 10 d'Afrique, ont pris part à la rencontre de Yaoundé pour planifier les nouveaux défis, dont la situation des femmes dans l'exploitation du diamant. Esther Finda Kamde de Women and Mining and Extractive, une organisation de la société civile de la Sierra Leone.
We are women who have been raped. We are for a couple of years we have been working with women, taking their testimony. A lot of women, you know, that have been raped that nobody accounts for. Because so these women suffer, you know, rape and violations, and no action is being taken. And other social issues, we have this mining going on in our community. No light, no road, no water. These are huge problems. And we are now talking of climate change, and these are burdens that women carry every day.
Le Cameroun a adhéré au processus de Kimberley en 2003. Entre 2012 et 2014, une société sud-coréenne a obtenu un permis d'exploitation de diamants avant de mettre la clé sous le paillasson. Daniel Maclair et Lungna, secrétaire permanent du processus de Kimberley au Cameroun.
Nous, au niveau du processus de Kimberley, nous avions déjà engagé cette activité de formalisation, déjà d'identification de ces artisans, formalisation en coopérative, et aussi en faisant la cartographie de tous les sites d'activité actifs et même potentiels pour leur aider dans la planification de leurs activités de production.
40% du diamant produit dans le monde provient d'Afrique, mais la société civile déplore que cette représentativité ne permette toujours pas aux pays africains d'obtenir le consensus sur les doléances au sein du processus de Kimberley. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Le Salon africain des lunettes s'est tenu au cours du week-end écoulé à Ouagadougou, au Burkina Faso. Objectif, promouvoir la santé oculaire et rendre accessibles les lunettes. Les participants ont profité de l'événement pour rendre hommage aux forces de défense et de sécurité. De la capitale burkinabé, le reportage de notre correspondant Lamine Traoré.
Le Salon africain des lunettes s'est tenu sur la place de la Nation à Ouagadougou. Des stands offrent des consultations gratuites, des verres correcteurs et protecteurs à des tarifs avantageux. Le Salon veut faire la promotion de la santé oculaire tout en rendant accessibles les lunettes de vue qui parfois sont hors de prix. Avec la crise sécuritaire que traverse le pays, le Salon a rendu hommage aux forces armées. Seydou Ouattara est le directeur général de Iris Optique. Un opticien.
C'est pour venir en aide aux FDS et aux volontaires, ainsi que la population. C'est ça notre motivation pour pouvoir promouvoir. Il y a certains qui sont là, ils ont des problèmes, les lunettes ne sont pas accessibles. Donc nous, on est là au salon pour les rendre les lunettes accessibles avec l'accompagnement des agents de santé.
Lionel Anissé Ilboudo, commissaire général du salon, explique.
Nous sommes en proie du terrorisme aujourd'hui dans notre pays. Et nous, en tant que professionnels de la santé oculaire, nous ne pouvons rester en marge de cela. Afin de pouvoir régler les problèmes d'amyotropie dont nos professionnels de la défense font face, nous allons les consulter, nous allons regarder la vision, nous allons les faire des lunettes à un meilleur tarif social, afin qu'ils puissent être opérationnels sur le champ de bataille, afin que la victoire soit imminente.
Ce salon a été une bonne opportunité. Le colonel-major Aimé Sosten Ouedraogo a représenté le ministre de la Défense.
Nous avons vu donc de très belles opportunités. La santé oculaire, c'est vraiment une préoccupation. Beaucoup de gens ne voient pas bien et ne le savent pas. Donc c'est l'occasion pour venir ici et se faire dépister et éventuellement acquérir donc du matériel de qualité afin donc de pouvoir améliorer ses performances dans chacun de son domaine d'activité.
Le salon, après 3 jours, a refermé ses portes hier dimanche. Il a enregistré plusieurs centaines de participants et ambitionne d'associer des pays africains à la prochaine édition. Les organisateurs cherchent à assainir le milieu et espèrent l'adoption prochaine d'une loi qui va régir la profession d'opticien et la formation des acteurs. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA.
Et voilà, c'est ici que nous allons clore Le Monde Aujourd'hui, édition matinale du lundi 5 février 2024. La mise en onde a été assurée par Michel Joseph. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce matin. Jacques Aristide depuis la capitale américaine. Je vous souhaite une très belle journée et une excellente semaine. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous et des autres aussi. À très bientôt.